BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, willkommen, bonjour et bienvenue à tous dans ce magazine sur la République fédérale et le monde. Après la politique, on va parler histoire cette semaine. Retour sur un sujet dont je vous parlais en bref il y a peu, la pétition d'Ibobé pour réclamer plus de droits pour les Africains en Allemagne. C'était il y a 100 ans. Et puis juste après, direction la Jordanie. Comme sur le continent, parfois une série télé déchaîne les passions là-bas. Série sur un groupe d'adolescents qui part en vacances. Ça fait un tollé et illustre le mélange de changement et de conservatisme dans la société. Reportage dans la deuxième partie de ce magazine donc. Mais d'abord, actu et histoire en Allemagne. Elle s'affiche donc ici depuis quelques jours sur le mur dans la Wilhelmstrasse au numéro 52 à Berlin. Nous sommes en plein cœur du quartier de Mitte dans le centre de la capitale allemande. Une plaque rectangulaire sur un mur blanc avec un texte en bleu. Un texte en souvenir de Martin d'Ibobé sur le bâtiment qui fut au siècle dernier le siège de l'administration coloniale allemande. Martin d'Ibobé, c'est celui qui, comme on le lit sur la plaque, demandera indépendance et égalité des droits pour les Africains en Allemagne, originaires des colonies allemandes, mais aussi pour tous ceux qui sont restés sur le continent sous administration allemande. On est alors en 1919. Quelques années plus tôt, en 1876, Martin d'Ibobé naît au Cameroun, qui est à l'époque une colonie allemande. Le jeune viendra bientôt à Berlin, en Allemagne, pour être exhibé lors d'un spectacle, comme ça se fait souvent à l'époque. On présente les habitants des colonies comme des curiosités. Martin d'Ibobé reste par la suite en Allemagne, et il est bientôt le premier conducteur de train noir. Il se marie même avec Lafitte, son propriétaire d'appartement, une blanche berlinoise. Malheur, mais heureusement le mariage a tout de même lieu, même si c'est contre l'avis de tous. Martin d'Ibobé est déjà un peu combattant et il prend bientôt la défense des personnes noires. Car comme beaucoup de personnes originaires des colonies, il n'a pas les mêmes droits. Tous rencontrent des difficultés quand ils veulent se marier. Ils n'ont pas le droit d'étudier comme les Allemands non plus. Des différences qui se ressentent dans la société. Alors dès 1918, un an avant la pétition dont on parle aujourd'hui, une association d'entraide africaine se crée en Allemagne, la Afrikanische Hilfsverein, montée par des Camerounais, des Marocains, des Guinéens ou encore des Libériens. Elle a officiellement pour but l'entraide dans la recherche d'un emploi, d'un logement et veut aider à combattre le sentiment de solitude au milieu de la population blanche, c'est comme ça que c'est écrit à l'époque. Rien de politique donc, officiellement en tout cas pour ne pas s'attirer les foudres des autorités. Mais quoi qu'il en soit, un an après sort la pétition d'Ibobé, donc. Pétition pas liée à l'organisation directement, mais on retrouve des personnes de l'association dans les signataires. Ils sont alors 18 à apposer leur nom sur ce document adressé à l'Assemblée nationale et au ministère des colonies. Un document unique en son genre, un véritable affront aux colonisateurs allemands. Document en 32 points, comme le raconte aujourd'hui le sénateur en charge de la culture à Berlin, Klaus Lederer.
Les 18 signataires exigeaient l'indépendance, l'égalité des droits et la sécurité juridique dans les colonies. Ils ont continué d'exiger la participation et la représentation dans des formulations qui ressemblaient à des réformes, mais qui en fait remettaient en question le système même de domination coloniale fondée sur l'inégalité fondamentale et la violence.
Une pétition courageuse donc, et qui est parfaitement réfléchie, c'est ce que souligne aujourd'hui l'historienne Paulette Reed Anderson.
Nous devons l'examiner dans le contexte de ce qu'ils essayent de réaliser politiquement. Il n'aurait pas été à leur avantage de dire simplement « nous voulons mettre fin au colonialisme » car il était clair que cela n'allait pas se produire. Je pense que c'était des gens très pragmatiques.
Mais quelques jours seulement après la remise de cette pétition, prennent fin les négociations du traité de Versailles en France. Négociations de fin de la Première Guerre mondiale qui font perdre leurs colonies aux Allemands. Des colonies qui récupèrent la France ou la Grande-Bretagne. Les demandes de la pétition d'Ibobé n'aboutiront donc pas. Théoriquement, les personnes originaires de ces colonies doivent même repartir dans leur pays d'origine et quitter l'Allemagne. Sauf que beaucoup resteront, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de repartir, soit parce qu'ils se sont mariés et ont eu des enfants, soit encore parce que les nouvelles puissances coloniales anglaises ou françaises craignent qu'ils ne fassent de la propagande allemande sur place. La vie continue donc pour certains en Allemagne. Quelques-uns arrivent à avoir un statut d'existence légale à l'époque, même si rien n'oblige les autorités allemandes à leur donner, et si c'est encore le flou qui règne pour certains. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui restent là, les difficultés ne s'effacent pas pour autant. Certains perdent leur emploi avec la perte des colonies. Une partie de la société ne veut toujours pas accepter ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs. C'est ce que raconte aujourd'hui l'activiste germano-tanzanien Minyaka Surumbo.
Ils ne sont pas considérés comme des Allemands, même si l'un des parents est allemand. Vous trouvez toujours bien quelqu'un qui, même s'il parle la langue, même s'ils ont grandi ici, ne veut toujours pas les accepter.
C'est cette situation qui poussera finalement Martin Dibobé à repartir au Cameroun. Mais les Français, qui sont désormais colonisateurs sur place, le voient arriver d'un mauvais œil. On perd la trace de Martin Dibobé en 1922 au Libéria. Reste donc cette pétition qui porte son nom et marquera les esprits. Certaines revendications seront d'ailleurs satisfaites des années après, souligne aujourd'hui Minyaka Surumbo.
Quand on regarde les demandes, ils ont aussi exigé un député africain et ce n'est pas une blague, ça a pris 100 ans. Mais maintenant, il y en a un.
Minyaka Surumbo fait référence au député du parti SPD allemand Karamba Diaby, né au Sénégal et élu au Bundestag allemand pour la première fois en 2013. Aujourd'hui, l'histoire coloniale fait toujours débat en Allemagne. De nombreuses associations, des historiens, des citoyens demandent à ce qu'on enseigne et fasse davantage de recherches sur cette période. Il y a aussi le débat sur le retour des œuvres coloniales ou même des restes humains. On en parle régulièrement sur cette antenne. La petite plaque au nom de Martin Dibobé dans la Wilhelmstrasse à Berlin doit aider à ce long travail. Pour ceux qui la rateraient, le portrait de Martin Dibobé est aussi affiché en photo dans la station de métro Aleschestor, dans la capitale allemande.
Ich bin nicht von hier, du bist nicht von hier, wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Es geht doch um den Menschen, was sind Pässe auf Papier? Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier.
Nous ne sommes pas tous d'ici, on se partage la terre. Allez, viens, on partage une bière. Chanson contre le racisme du groupe allemand Jennifer Rostock, groupe qui s'est toujours engagé contre le racisme, l'homophobie et en faveur du féminisme. Vue d'Allemagne, deuxième partie de ce magazine, on va parler télé dans votre radio. Direction la Jordanie, là-bas, comme c'était le cas au Sénégal encore récemment, une série fait polémique. Série cinéma, donc Netflix tournée sur place. Djinn, ce qui signifie génie en arabe, elle fait un tollé, illustrant le conservatisme de la Jordanie qui se mêle à l'ouverture du pays sur l'Occident. Alors pourquoi ce tollé ? Djinn, c'est une série qui met en scène des adolescents partis en voyage scolaire dans la cité historique de Petra, dans le sud de la Jordanie. La suite, eh bien c'est Jérôme Borowczewski qui vous la raconte.
Mira, l'héroïne, allongée la nuit sur les rochers roses de Petra, Fahed, son petit copain penché sur elle et qui l'embrasse. « Vas-y doucement, Fahed !» dit la jeune femme. Cette scène du premier épisode a fait déferler des torrents de critiques en Jordanie. Bassam, un étudiant de 23 ans, a été choqué.
« Ce n'est pas ça en quoi nous croyons. Ce n'est pas de cette manière que nous avons été éduqués. Ce n'est pas nous. »
Dans le même épisode, les personnages de la série se retrouvent autour d'un feu de camp. Quelques verres d'alcool, quelques joints, Bassam s'inquiète pour les jeunes spectateurs de la série.
J'ai peur qu'ils fassent la même chose et qu'ils se disent que ça ne pose pas de problème de faire cela. Quand vous voyez une production jordanienne, vous vous identifiez davantage. Les personnages sont jordaniens, ils vivent dans le même pays, ils vivent de la même manière que nous. Ils font tout cela, alors pourquoi pas moi ?
La fin du dernier épisode de la série Djinn est très ouverte. Elle pourrait facilement se prêter à une suite. Mais l'étudiant Bassam y met une condition.
Le gouvernement devrait examiner le contenu de la production pour s'assurer qu'elle donne une bonne image et une image fidèle de la Jordanie.
Donc ce que vous dites au fond, c'est qu'il devrait y avoir de la censure.
Oui, exactement.
Voilà, Amrak. Tu vas te dire que tu es avec moi une fois. Je suis avec toi, je devrais être amis.
Dans les deux premiers épisodes, Mira, l'héroïne, refuse de coucher avec son fiancé, puis elle rompt avec lui. « Une petite amie n'est pas une chose », lui crie-t-elle devant tous leurs camarades de classe. Puis elle se lance dans une enquête dangereuse. Elle incarne la jeune femme libre et courageuse qui se bat pour être l'égale de l'homme. Mais beaucoup en Jordanie, comme le jeune Abdallah par exemple, ne l'ont pas vue ainsi.
« I don't think... »
Je ne pense pas que Mira soit considérée comme un modèle parce qu'elle a osé dire non à son copain. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, il y a énormément de vidéos et de photos sur Fahed et Mira. Les gens se moquent d'eux. Ils ne prennent pas cela au sérieux.
Qu'est-ce que les gens vont retenir de son rôle dans la série?
Les baisers uniquement, je crois.
Abdallah en sourit, mais la justice s'est saisie de l'affaire. Le procureur d'Amman a demandé à l'autorité chargée de lutter contre la criminalité en ligne d'ouvrir une enquête. Pour le moment, la démarche n'a débouché sur rien. Pour Nidal Mansour, le président du Centre pour la défense de la liberté des journalistes, il n'y a rien d'illégal dans cette production Netflix, rien non plus susceptible d'insulter la culture du pays.
La Jordanie ne se limite pas à une série. Peu importe si nous aimons ce qui se passe dans cette série ou pas, en tout cas, elle ne peut pas nuire à l'image de notre pays. La Jordanie, c'est bien plus qu'une série. La Jordanie est un pays divers qui accepte les différences. Les films peuvent parfois présenter de mauvais comportements et quelque chose de négatif, c'est la règle dans les productions artistiques et dans le cinéma. Le cinéma ne doit pas présenter que des stéréotypes et faire croire que le pays est parfait.
Ce promoteur de la liberté d'expression a écrit un article pour défendre non pas la série, mais la liberté de création. Il a reçu plus de 300 réactions négatives.
Il ne s'agit pas d'un débat. 90% des commentaires sont insultants. Cette série touche à des tabous, le sexe, les religions et les tribus. Il faut être prudent lorsqu'on aborde ces tabous.
L'autorité religieuse a aussi réagi à la série Djinn. Le grand moufti d'Aman, un dignitaire musulman, en a parlé comme d'une dégradation morale. Monseigneur William Chomali, le vicaire apostolique d'Aman, un prélat catholique donc, lui répond.
Si on parle de dégradation pour ce film, quel adjectif reste pour les films érotiques et pornographiques et le reste? Ce film dit la vérité sans beaucoup de scandales. Donc se scandaliser, je pense que c'est hypocrite aussi, parce qu'il y a pire que ça. Mais j'encourage les jeunes à le voir, pas pour être choqués, mais il faut le discuter. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est bon dans ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est mauvais? C'est comme ça qu'on éduque.
La société jordanienne est devenue beaucoup plus pudique ces 50 dernières années. La majorité des femmes sont voilées, la plupart ne l'étaient pas il y a un demi-siècle. La famille royale donne pourtant une image opposée à cette tendance. Le roi Abdallah et la reine Rania forment un couple en apparence occidentalisée. Ils s'expriment dans un anglais parfait dans les médias internationaux. La reine n'est presque jamais voilée en public. Un membre de la famille royale a même appelé à la fin de la polémique autour de la série Djinn, demandant le respect des différences.
Jérôme Borowsewski en Jordanie pour la DV, merci à lui pour ce reportage, merci aussi à Daniel Pels de la DV, à tous les historiens qui travaillent au quotidien pour leur aide dans la préparation de cette émission, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro, et d'ici là, même en podcast sur notre site pour les anciens numéros si vous en avez envie. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, prenez soin de vous, bisbald, à très bientôt, tchuss.